Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et Rémi, nous allons démarrer avec le refus du jour.
Le maire de Bourges fait partie des quelques élus qui ne mettront pas les drapeaux français en berne sur le fronton des bâtiments municipaux le jour des obsèques d'Elisabeth II, lundi prochain. La proposition avait été faite par Emmanuel Macron, qui a écrit au maire de France pour le leur demander. Dans le Nord, Patrick Proisy, qui est maire LFI de la commune de Fâche-Thumesnil, près de Lille, a pris la même décision. Et il s'interroge, est-ce que c'est fait pour tous les chefs d'État qui décèdent? Notre République fait-elle de la préférence pour une monarque, chef de l'Église, s'interroge-t-il.
Alors, ça fait débat, ce refus. Jérôme Lavrieux, est-ce que le maire a raison de refuser de mettre les drapeaux en berne?
Moi, je pense qu'il fait ce qu'il veut.
Bah oui, c'est ça.
Moi, chez moi, je l'ai mis.
Mais ça, c'est parce que vous avez des touristes britanniques qui viennent chez vous. Alors, évidemment, vous pouvez faire plaisir.
On parle du Dordogneshire.
C'est un aspect mercantile.
Parce que c'est le département où il y a le plus d'anglais. Mmh. Mais j'ai aussi mis le drapeau canadien, puisqu'elle était reine du Canada.
Mmh. Ah oui, c'est vrai.
En berne.
Oui.
Mais ça, c'est à titre purement personnel. Puisque...
Non, mercantile. C'est à titre mercantile.
Non. J'ai pas beaucoup de Canadiens qui viennent dans des gîtes en France. Mmh. C'est parce que ma grand-mère était canadienne.
Ah.
Voilà. Et quand elle est née, elle avait un passeport de l'Empire britannique. Et si elle était toujours vivante, elle aurait qu'un passeport du Canada, ce qui montre la déliquescence de cet empire. Mais c'est juste une petite pensée pour elle. Je l'ai mis en berne le temps des obsèques.
Le drapeau, pas la reine.
Le drapeau.
Bien sûr.
Ma grand-mère, elle est morte.
Mais pourquoi est-ce qu'on mettrait finalement les drapeaux en berne pour le décès d'Elisabeth II?
Alors, question à une autre question, ça s'appelle de la rhétorique. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 avril 2005? Mort du pape Jean-Paul II. Ça a été la même polémique sur la mort du pape Jean-Paul II, qui était un chef d'État aussi, hein, c'est le chef d'État du Vatican, mais également un chef religieux, donc c'est un petit peu ce qu'on dit de la reine. Et ça a été déjà la même polémique. J'ai retrouvé des articles.
Ça n'a rien à voir. C'est de la religion.
Non, pas du tout. Il est chef d'État aussi, le pape.
Oui,
donc, et ça a déjà été la même polémique. Moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut. Ou alors, on décide.
Enfin, dans ce cas, chaque maire peut mettre le drapeau en berne.
On peut très bien décider que pour les chefs d'État, on met le drapeau en berne, quel que soit le pays, qu'est-ce que ça. Mais c'est compliqué.
Et quand le président du Bouton, il va mourir, on va mettre le drapeau en berne.
Alors, à quel moment tu décides que quelqu'un est important ou pas?
Mais le Royaume-Uni, c'est pas l'Europe que je cherche.
On va faire rentrer.
C'est plus l'Europe, donc.
On va faire rentrer un peu de rationalisme dans cette.
Rationalité plutôt, ouais.
C'est mieux, ouais.
Mais aussi du rationalisme.
Bon, allez-y.
Si la personnalité en question, chef d'État ou pas, a joué un rôle dans l'histoire de France, quand Churchill est mort, on a mis en berne. Il avait sauvé la France par le courage dont il avait fait preuve en 40. Si c'est un chef d'État et que la France a eu des liens importants ou qu'il y a eu une action militaire, culturelle, je comprendrais. Elisabeth, je l'ai dit la dernière fois, j'ai beaucoup de respect pour elle, elle n'a joué aucun rôle à aucun moment et à aucun niveau dans l'histoire de France, c'est tout. Elle est la chef d'État symbolique sans aucun pouvoir d'un pays ami qui sera un pays ami à vie. On s'en fout du Brexit ou pas. Il y a un lien historique fort qui a été au départ un peu conflictuel avec les Anglais et ensuite ils nous ont sauvés en 40, car s'il n'y avait pas eu Churchill, l'histoire aurait été différente. La reine Elisabeth n'a aucune justification à mettre les drapeaux. Alors ensuite, là où je rejoins, le président de la République aurait dû dire que les mairies qui veulent le faire. D'ailleurs, on n'a pas besoin de
sonorisation. Ce qu'il a fait.
Oui, mais on n'a pas besoin de sonorisation. Il n'est pas autorité municipale. Voilà. Non. Et on n'a pas besoin des consignes symboliques.
Il a invité les maires de France à le faire. Oui.
Mais il n'y a aucune raison. Voilà, il n'y a aucune raison. Bah alors, on le fait si on ne le veut pas. Donc, du coup, je suppose que les drapeaux de la République vont être mis en berne à la mort d'Elisabeth. Je ne vois. Sincèrement, et ça ne me pose aucun problème. C'est très bien.
On ne voit pas pourquoi.
Je ne vois pas pourquoi. À quel titre, pourquoi qu'on nous l'explique. C'est tout. Voilà.
C'est un geste de courtoisie vis-à-vis d'un peuple ami qui aurait pu dire je ne vois pas pourquoi on va aller aider les Français, mais on est allé les aider en 14-18 et on est allé les aider en 39-45.
Tout à fait. Non, mais là-dessus, ça tient.
Contrairement à ce que tu dis, c'est le dernier chef d'État vivant qui a participé sous l'uniforme à la Seconde Guerre mondiale.
Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais voilà. Mais de dire, voilà.
L'entente cordiale, et c'est mieux quand c'est comme ça.
Et du coup, on a un petit prurite. On a un petit prurite des maires de gauche laïque qui disent, ah, une reine et en plus, elle est chef de l'Église.
C'est le truc. La
réponse est aussi bête que le fait d'avoir dit voilà.
La prescription du jour.
Le parquet de Paris a classé sans suite l'enquête visant Nicolas Hulot pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineurs. La justice considère que les faits sont prescrits. L'enquête avait été ouverte le 26 novembre dernier après la diffusion d'un documentaire de l'émission Envoyé spécial sur France 2, au cours de laquelle plusieurs femmes avaient porté des accusations à l'encontre de l'ancien ministre de l'écologie et l'une d'entre elles donc avait porté plainte. Mais ça sera sans effet.
Je viens vers toi, Emmanuel Dancourt. La décision, est-ce que c'est voilà. Donc en fait, il y a prescription.
Oui. C'est du mal à rester calme. Hein.
C'est ça.
Voilà. Alors, faut quand même dire une chose que je voudrais surtout que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer. On ne dit pas que Nicolas Hulot est innocent. Non. Si la justice avait voulu le dire, elle aurait pu dire, elle aurait pu estimer, par exemple, que les accusations de la jeune femme en question ne tenaient pas. La justice aurait classé l'affaire pour absence d'infraction ou pour infraction insuffisamment caractérisée. Là, c'est pas le problème. Si ça avait été ça, ils l'auraient dit. Donc, ils le disent pas. Ça veut dire que c'est caractérisé. Mais la loi est faite de telle manière qu'ils sont complètement pieds et poings liés par cette loi de prescription. Ce que je voudrais dire, c'est que la prescription, c'est une tolérance écœurante. Et que nous, au sein de MeToo Media que je préside, mais je suis loin d'être toute seule dans l'assaut, on est vraiment en train de travailler là-dessus, parce qu'il faut faire changer la loi. En tout cas, dans les crimes de violence sexiste et sexuelle. Moi, je dis que tout notre système judiciaire, c'est un système qui est là pour broyer les hommes et les femmes qui sont victimes de ces violences. Je dis que notre justice, elle dysfonctionne lourdement.
Mais on peut aussi
et qu'on est dans un pays qui est fait pour
avant.
Organiser les abus.
Fait, on peut aussi te répondre, Emmanuel, et je me fais l'avocat du diable, que, en fait, on a le droit, nous femmes, les hommes aussi d'ailleurs, mais de porter plainte. Et on peut le faire dans les temps.
Alors je vais revenir là-dessus. Il faut de la pédagogie là-dessus. Pourquoi? On va dire principalement les femmes, mais on a des hommes, nous dans l'assaut. Pourquoi les femmes ne portent pas plainte et pourquoi moi j'ai pas porté plainte contre PPDA en temps et en heure? Parce que j'ai cru que j'étais coupable de quelque chose. Je me suis dit, mais si t'as agressé sexuellement et harcelé pendant un an, c'est forcément de ta faute. T'as fait un truc. Et quand bien même j'aurais pas cru ça, qui m'aurait cru à l'époque, en 2008, pour PPDA? Qui m'aurait cru? La parole n'était pas ouverte comme aujourd'hui. Et puis, il y a les traumatismes aussi. Moi, j'ai toujours un trou noir sur la suite de l'histoire. Quand le major m'a demandé ce que vous avez été violée, je crois pas. Mais en fait, je sais plus. J'ai un trou noir. Il y a toute la mémoire traumatique qui est aujourd'hui bien connue. Donc, je comprends que les gens se disent, pourquoi elle a pas porté plainte?
Quelle est la solution? 50 ans ou prescription?
Il n'y a pas de prescription. Donc, la victime est morte, elle est morte.
Donc, comme le crime contre l'humanité.
Quand la victime est encore vivante et est un corps souffrant, parce que tu sors un corps et un psychisme souffrant, pas de prescription.
Mais Emmanuel, moi, je comprends ce que tu dis. Après, le seul problème, c'est que déjà, pour des faits qui remontent à deux jours.
Mais c'est ça qui est dur à caractériser.
Tu n'as pas de preuves. Donc, comment tu fais si tu vas dire 30 ans après, j'ai été violée.
C'est la
souffrance, elle est terrible, et ça, je te rejoins. Mais ça veut dire que tu n'as aucune preuve et ça devient parole contre parole. Alors bien sûr, quand tu as 25 cas dans certaines affaires, on voit bien qu'il y a eu quelque chose. Mais quand c'est juste du parole contre parole, comment on fait quand c'est 30 ans après?
Non, mais c'est justement parce que c'est prescrit que c'est parole contre parole. Si ça n'était pas prescrit, ce serait pas parole contre parole, ce serait une vérité judiciaire. Il y aurait un jugement.
Il y aurait une enquête, déjà.
Et c'est différent de la prescriptibilité pour ce genre de crime, dès lors que l'auteur et la victime soient vivants. Les deux.
Ah bah oui.
Parce qu'il faut que les deux puissent se défendre.
Tout s'arrête, tout s'arrête.
C'est différent de la prescriptibilité pour les crimes contre l'humanité, ce que tu disais, Érico. Parce que là, il n'y a pas besoin que la victime soit vivante, par essence.
Et c'est le fait historique.
Voilà. Donc, c'est ça la différence. Et moi, je pense que c'est à l'heure actuelle que c'est juste parole contre parole. Parce qu'on ne peut pas aller devant un juge. Et ce qui compte dans notre pays, dans une démocratie, c'est celui qui dit la vérité. C'est pas l'accusé. C'est pas celle qui se prétend victime. C'est le jugement. Jugement donne la parole aux deux, parce qu'il peut aussi arriver qu'on puisse être accusé à tort et qu'on puisse pas se défendre, et on traînera ça comme un boulet parce qu'il y aura pas de vérité judiciaire.
Oui. Ce qui arrive
désolé
souvent,
de faire l'équilibre dans les choses qui arrivent.
Non, mais ce qui arrive,
mais tu admets qu'on puisse porter plainte.
Mais je pense, c'est y compris pour ceux qui sont accusés, y compris peut-être pour lui, disons, il a le droit à la présomption d'innocence. C'est assez rare, la présomption d'innocence.
C'est un droit de violer la présomption d'innocence, Jérôme.
Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une vérité judiciaire.
Pour établir
les choses, c'est un juge.
Quand bien même, ça veut dire que tu admets l'hypothèse qu'on puisse porter plainte 40 ou 50 ou 60 ans après. Pour toi, c'est pas...
Mais tu sais qu'il y a des traumas parmi les victimes de PPDA. Marie-Laure a porté plainte 32 ans après parce qu'elle en était incapable avant.
Oui, mais tu ouvres aussi la porte à une possibilité de médisance, ça peut arriver.
De médisance, oui, évidemment.
Non, mais
évidemment.
Mais tu vois ce que je veux dire. En termes de droit,
en termes de droit, c'est vachement sensible.
Bien sûr.
Non, parce que Périco,
très rapide.
Maintenant, comme c'est prescrit, on n'en parle pas, il n'y aura pas de vérité judiciaire, mais on n'empêche pas d'en parler sur un plateau.
Jérôme, une fois que l'accusation part, c'est plié.